Bonjour à toutes et à tous. Donc on va pouvoir commencer. Donc je me réjouis de vous accueillir nombreuses et nombreux cette année pour la 12e édition des Journées du Réseau Médici. Pour commencer, je vais donner la parole aux représentants des trois lieux d'accueil des journées, à savoir la chargée de mission recherche et sciences ouvertes de l'Université de Lyon 2, le directeur de la recherche de l'ENSIB, l'École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques, ainsi qu'à la vice-présidente recherche de l'ENS Lyon. Donc sans plus tarder, je leur cède le micro pour leur mot d'accueil et je profite, je tourne la tête du micro, juste avant, pour les remercier tous trois au nom du réseau pour leur présence et pour ce faire ultérieurement les ambassadeurs et ambassadrices de nos remerciements les plus vifs pour l'accueil qui nous est offert dans ces différents établissements lyonnais. Nous sommes ravis d'être là cette année. Nous accueillons donc Madame Van Belsingsloven, chargée de mission recherche et sciences ouvertes. C'est à vous.
Alors bonjour à toutes et à tous. Donc moi j'habite dans le bâtiment, c'est pour ça que je suis en retard. Hein, tous les autres sont à l'heure. Désolée pour ces quelques minutes de retard. Donc moi aussi, je suis très très heureuse de vous accueillir dans cet amphithéâtre qui est parfois un peu vide et qui là est bien plein. Puis en plus, dites-vous que vous avez peut-être un peu chaud, mais vous avez de la chance parce qu'en hiver il y fait froid. Donc là, la doudoune en moins, c'est pas mal. Donc voilà, nous on est vraiment ravis d'accueillir, alors je crois que c'est la 12e édition des Journées Médici. Mes collègues vont prendre la parole après moi. Donc nous on est vraiment très impliqués dans nos presses universitaires dites de Lyon. Elle devrait être dite de Lyon 2, mais bon, voilà, je sais pas, ça doit être historique, je suis historienne, mais là j'ai pas eu le temps de chercher pourquoi. Alors je suis en train de chercher des yeux la directrice. Ah voilà, elle est où? Ah, elle est par là. Voilà, la directrice donc des pulls. Et donc de vous accueillir ici, c'est vraiment un grand plaisir. Je crois qu'on vous reverra dans la soirée, me semble-t-il. Mais vous aurez donc le temps d'aller aussi donc à l'ENSIB à Lyon 1 et puis à l'ENS de Lyon pour ENS Édition. Je vois que vous avez un programme tout à fait intéressant. Ce serait bien de pouvoir rester tout du long. Mais comme j'habite ici, je vais repartir assez vite. Et donc un programme chargé, mais surtout sur des thématiques qui sont absolument décisives dans la période. Alors je ne parle pas politiquement parce qu'on ne parle pas de politique en ce moment, mais en tout cas pour les activités éditoriales avec effectivement des changements massifs qu'on a un petit peu même encore du mal à appréhender, je dirais, c'est ça le terme. Donc évidemment, avec alors le numérique, ça fait quand même un petit moment qu'on y est, mais bon, l'arrivée de l'IA, donc on a une réunion aussi tout à l'heure là-dessus, qui va probablement donc révolutionner les révolutionner avec beaucoup de guillemets les éditions, et y compris les éditions publiques qui nous intéressent en premier chef. Ce qui me fait plaisir aussi, c'est de voir rassembler dans cet amphithéâtre tous les métiers de l'édition publique. Ça, c'est intéressant que ces échanges puissent vraiment avoir lieu dans un collectif soudé, concerné par les problématiques abordées. C'est pas toujours évident de mélanger, même dans un... Je veux dire, dans une même communauté de métiers, des activités qui, finalement, au jour le jour, sont assez diverses. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc, vous accueillir, vous dire qu'on vous attendra en salle de réception ce soir. Et je passe... Ah ben non, j'ai peut-être pas le droit. Je passe la parole à ma voisine.
À votre voisin, voilà, plus précisément. Donc, nous accueillons Malcolm Wasby, le directeur de la recherche de l'ENSIB.
Merci beaucoup et c'est un plaisir d'être ici, de vous accueillir donc demain à l'ENSIB. Alors nous n'avons pas une fresque où on jette les mauvais orateurs dans la Saône. C'est ce qui est arrivé apparemment dans les temps romains, dit-on, à Lyon. Donc ne me jetez pas si je suis mauvais. À l'ENSIB, donc, comme il a été dit, c'est la grande école qui s'occupe des sciences de l'information, des bibliothèques, de l'histoire du livre. Nous avons également donc des presses, à la fois donc traditionnelles, mais aussi nativement numériques. dans lequel donc nous avons des revues, des collections classiques, et évidemment en tant que centre qui s'occupe également des bibliothèques, notamment c'est l'endroit où les gens qui ont les concours d'État, donc de bibliothécaires et de conservateurs viennent après avoir réussi leur concours pendant un certain temps, 18 mois pour les conservateurs avant d'intégrer les bibliothèques universitaires, la BNF, etc. Ils viennent dans un endroit où on fait à la fois, on va dire, le rôle de presse, le rôle de recherche, mais également donc la préparation de ceux qui vont acheter après les collections, ou du moins lorsqu'ils sont en ligne directement, gratuitement, en OA, les répertorier, les cataloguer, les recevoir. Donc c'est quasiment toute la chaîne qu'on a. On a même des lecteurs à la bibliothèque. Donc c'est toute la chaîne que nous avons, et j'espère que quand vous serez à l'ENSI, vous prendrez un petit peu le temps de faire le tour et de regarder aussi ces autres aspects qui vous parleront également. Vous êtes aussi à Lyon. Lyon est une ville avec une histoire très importante au niveau des presses. Ce serait dommage de ne pas en profiter. Donc également trouver quelque temps pour en faire le tour. Il y a 551 années, pour être précis. Donc les presses se sont installées ici à Lyon. Ils se sont développés tout de suite dans une configuration extrêmement innovante, dans une technologie transformatrice, pas simplement au niveau de la production, l'imprimerie, mais également donc dans l'idée d'une subdivision des tâches au sein du monde éditorial entre imprimeur, éditeur commercial et éditeur scientifique. Et c'est l'un des premiers endroits au monde à faire ça. Et c'est un véritable succès, notamment dans le domaine des sciences, au sens scientia, de la connaissance. Et c'est sur le dos de ces productions-là, internationales, latines à l'époque, que Lyon va connaître un envol qui permettra de devenir la deuxième ville au monde de production de livres pendant le XVIe siècle. Donc vous êtes dans un endroit particulièrement important pour ça. Donc prenez le temps d'aller regarder la vieille ville. Vous pourrez même voir donc les boutiques des libraires, des imprimeurs. Vous pourrez aller voir la boutique d'Étienne Dolé, figure de la libre pensée, de la libre parole, au moins dans la légende. Et en ce moment, ça peut toujours être utile de se rappeler que c'est une bonne chose. C'est également une question de transformation technologique, mais également de transformation d'accessibilité, qui parle un peu au thème des choses que vous allez parler, puisque l'imprimerie rend plus accessible, plus lisible, physiquement plus lisible, financièrement plus accessible également, l'écrit. Il va également s'accompagner d'images plus lisibles, plus compréhensibles, plus normées et donc plus faciles à suivre, et notamment aussi donc dans les domaines scientifiques, la marche vers le vernaculaire, vers le français notamment, qui ouvre plein de choses. Et à ça, évidemment, aujourd'hui, vous avez des transformations similaires au numérique, la transformation de l'IA. IA qui a une importance fondamentale pour les bibliothèques aussi, et pas que pour le monde de l'édition, à la fois indépendamment, donc dans la façon dont fonctionnent les catalogues, fonctionne la façon dont on peut répertorier la production, qu'elle soit des presses donc universitaires en ligne ou en physique, et comment est-ce qu'on permet à une IA de les lire de manière similaire et donner un accès égalitaire. C'est un des enjeux très importants de l'IA. On a eu la Biennale du numérique il y a quelques mois, que vous pourrez re-regarder en ligne si vous le souhaitez, précisément sur ces questions du côté des bibliothécaires, mais également des questions d'IA qui vont toucher aussi aux problèmes de production. Est-ce qu'on répertorie? Est-ce qu'on peut trouver des problèmes dans ce qui est proposé également? C'est une question qui taraude énormément la production, puisque l'IA, les paper mills, etc., sont une question fondamentale, pas simplement pour les producteurs, c'est-à-dire ceux qui vont avoir à retirer des choses qu'ils ont proposées qui sont peut-être problématiques, mais également ceux qui doivent les signaler. Et en tant que directeur à la fois donc de collection et de revue moi-même, je sais que c'est un problème qui touche tous les domaines et plus simplement les sciences dures aujourd'hui. Donc c'est quelque chose sur laquelle évidemment on sera appelé à travailler ensemble. Alors c'est super d'avoir tous les niveaux du monde éditorial ici. C'est bien aussi donc de pouvoir se parler aussi de l'autre côté, on va dire, de la part donc à la fois des bibliothèques et des autres. Alors, j'ai déjà beaucoup parlé, je ne veux pas finir dans le Rhône. Donc, je vais passer du coup la parole à ma voisine. Merci et encore une fois, bienvenue.
Donc, nous terminons ces mots d'introduction avec Christine Détray, vice-présidente recherche de l'ENS de Lyon.
Merci beaucoup et merci à vous toutes et à vous tous d'avoir fait ce déplacement pour les premières journées organisées à Lyon, en fait, hein, depuis les 11 précédentes, et là, les 12e sont à Lyon. Donc moi, je ne suis pas historienne, je suis sociologue. Et du coup, forcément, que mon approche est aussi un peu différente. Alors nous, on se réjouit beaucoup, beaucoup à l'ENS en général, et puis à ENS Édition en particulier, des deux thématiques de ces 12e journées, accessibilité numérique et puis intégration des outils d'intelligence artificielle dans les pratiques éditoriales, puisque ce sont effectivement, alors aussi bien pour vos métiers de l'édition que pour nos métiers de la recherche, que pour les interrogations et les enjeux des sociologues, forcément des enjeux extrêmement forts. Alors si je refais un petit point sur l'ENS, donc nous on vous accueille vendredi, hein, si je ne me trompe, dans le grand amphi qui avait brûlé mais qui maintenant est bien tout neuf, hein, bien refait. Celui-là aussi, il avait brûlé. Bon, voilà.
Le vôtre n'a pas brûlé.
Le vôtre, non. Bon. Donc, on va vous accueillir à l'ENS. Et je voulais juste repréciser un petit peu l'enjeu, justement, l'intérêt, l'importance de ces deux thématiques pour notre structure éditoriale, d'une part, et puis notre école, de l'autre. Donc, effectivement, au sein de ENS Édition, on a un engagement qui s'inscrit vraiment au cœur de la politique éditoriale de la maison d'édition. Donc, je salue Isabelle qui est là, Isabelle Boutou. Depuis donc le projet de service depuis 2017, avec des initiatives que la maison d'édition a lancées à tous les niveaux de la chaîne d'édition, et vraiment cette opérationnalisation cette transformation en action concrète. Alors, sensibilisation des chercheurs, et ça, bien évidemment, c'est un gros travail, des acteurs, accompagnement des auteurs dans la rédaction des manuscrits, puisque là aussi, il faut le prendre à la source, et jusqu'aux actions, une fois que le livre est fait, est édité, ou la revue, aux actions de diffusion et de promotion, et les actions également de formation et de sensibilisation dans les réseaux à l'échelle nationale, comme celui-ci. Au niveau de l'établissement, d'autre part, et là, on n'est pas très original, hein, puisque ça fait un certain nombre d'universités et d'institutions qui, elles aussi, ont mis en place des fonctions de référent accessibilité numérique et qui jouent un rôle central dans la mise en œuvre et le suivi de ces politiques. Donc, on a mis en place un référent qui œuvre depuis 2022. Donc, c'est assez récent, mais voilà, ça prend de l'ampleur. À promouvoir une culture de l'accessibilité numérique et qui pilote une stratégie, en fait, de développement. Et la dernière manifestation, c'est la rédaction d'un schéma pluriannuel d'accessibilité numérique qui a été validé en CA en mars 2024 et qui donc va déployer les actions. Et puis, là aussi, ENS, mais comme Lyon 2, comme l'ENSIB, c'est vraiment quelque chose sur tout le territoire lyonnais. On soutient bien évidemment toutes les démarches, la charte science ouverte et les démarches en matière de publication numérique accessible. Donc ça, c'est vraiment aussi quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur. Et puis, la deuxième thématique, bien évidemment, intégration des outils d'intelligence artificielle. Isabelle l'a dit, Malcolm aussi, on ne peut pas aujourd'hui penser ni la recherche en particulier, ni l'édition en général, et vice-versa d'ailleurs, en particulier en général, sans intégrer ça. On voit bien que ça traverse toute la façon aujourd'hui de travailler. Qu'elle soulève des questions extrêmement complexes, juridiques, techniques, éditoriales. Et donc là aussi, je pense que vous sortirez de ces trois journées avec... peut-être moins de réponses que de questions, mais les questions, c'est aussi ce qui permet d'avancer, de mettre en commun. Donc voilà, je vais juste conclure sur remercier toutes les personnes qui permettent que tout ça s'organise. J'imagine que c'est bien du travail à tous les niveaux de l'organisation, mais on sait l'importance, quel que soit le métier qu'on a dans le délire, les tunnels dans lesquels on est embarqué, mais l'importance de ces temps de réflexion collective, l'importance d'un moment de poser des jalons, de progresser ensemble, d'innover pour un avenir qu'on espère, et ça sera ma petite touche aussi, plus inclusif, engagé et responsable. Voilà, merci beaucoup.
Merci à vous trois d'avoir pris le temps de venir ouvrir nos journées. Même s'ils sont courts, ces moments d'échange sont toujours importants pour nous, car les vice-présidences ou les directions de recherche sont toujours des interlocuteurs privilégiés, précieux et présents dans nos environnements de travail. Et vous contribuez notamment à la reconnaissance et à la mise en visibilité des activités scientifiques et de soutien de la recherche de tous les personnels. Donc encore une fois, merci. Je voudrais à mon tour prendre quelques minutes pour faire un point rapide sur le réseau, et ce moment va évidemment être également celui de beaucoup de remerciements. Donc, nous célébrons, donc ce sont les 12e éditions des journées, mais nous célébrons cette année les 15 ans du réseau, et s'il n'y a pas de cérémonie particulière, nous pouvons néanmoins nous réjouir d'une participation toujours et de plus en plus active sur notre réseau. La liste de diffusion compte à ce jour 817 abonnés, c'est une petite cinquantaine de plus que l'année dernière, et la liste des membres du réseau Médici en compte 307. Donc je rappelle que selon notre charte, peuvent être membres du réseau les professionnels d'une institution publique impliquée dans un dispositif éditorial qui participe à la production et ou à la diffusion du savoir scientifique. Je profite également de ce moment pour accueillir aussi les nouveaux et nouvelles collègues qui nous rejoignent cette année. Nous nous réjouissons collectivement de trouver dans Médici, nous leur souhaitons collectivement de trouver dans Médici un espace d'échange, d'information pour les accompagner dans l'exercice de leur métier. Effectivement, vous le savez, Médici est un réseau professionnel qui fédère toute personne impliquée dans une chaîne éditoriale, quel que soit son statut. C'est un réseau métier soutenu par la MITI, la mission pour les initiatives transverses et interdisciplinaires du CNRS, mais qui se veut et est nécessairement et résolument multi-organisme et ouvert à l'ensemble des disciplines scientifiques. La communauté qu'il regroupe est donc une communauté variée en termes de métiers, de missions, d'activités, mais également en termes d'établissement, de rattachement de ses membres. Parmi ceux-là, des organismes de recherche, des universités, des presses universitaires, des grandes écoles, etc. Nous le rappelons régulièrement, mais je voudrais le dire ici encore, l'importance de participer à la vie des réseaux, et celui-ci en particulier. Si le paysage des structures éditoriales a beaucoup changé ces dernières années, nombre de collègues sont encore parfois isolés et trouvent dans les réseaux une occasion d'élargir le cercle de contact, de partager des connaissances et des expériences et de prendre du recul sur leurs pratiques. Car réside une des difficultés de notre métier chronométré, c'est de prendre ce temps de recul. Donc, quelle que soit notre situation professionnelle, nous jouons souvent contre le temps et prendre un moment pour mettre ces pratiques en perspective n'est pas toujours évident. Et c'est pourtant essentiel et ce n'est pas un vain mot. Et c'est ici que le réseau a un rôle capital à jouer, précisément pour offrir ces temps de pause dans le quotidien pour poser une question, par exemple à la liste de diffusion, participer à un webinaire pour en savoir plus sur un point précis, profiter d'une veille collective, rejoindre une formation pour faire évoluer ses compétences ou encore simplement changer d'emploi. Ce temps est aussi celui des journées Médici, nous y sommes. Notre rendez-vous annuel est un temps fort de notre réseau où, une fois par an, nous nous réunissons pour construire collectivement cette pause réflexive autour de thèmes fondamentaux émergents, mais aussi, et c'est important, autour de temps plus informels durant lesquels nous nous retrouvons, nous nous rencontrons, nous faisons mieux connaissance pour tisser des relations qui rendront toujours plus fluides nos futurs échanges et donc notre habileté à mieux communiquer et à mieux travailler ensemble. C'est également dans ce but que nous œuvrons depuis plusieurs mois au sein du réseau à développer l'interréseau avec REPER, le réseau des pépinières de revues scientifiques en accès ouvert, et Mirabel, le réseau qui facilite le référencement et l'accès aux revues, afin d'associer et de mutualiser certaines de nos actions, notamment pour permettre un accès plus large à la formation et mieux se saisir de l'environnement de la production scientifique, mais aussi pour renforcer nos partenariats et nos liens à l'international. Enfin, puisque l'on parle de temps, c'est aussi celui que trouvent les membres du COPIL qui ont pris leur fonction il y a 5 mois et que je voudrais remercier ici, qui doivent être un peu partout dans la salle. Merci. Ils ont permis de réinsuffler une belle énergie pour prendre la suite des COPIL qui nous ont précédés. Je voudrais également chaleureusement remercier les pilotes des groupes de travail et tous les membres pour leur implication dans ce collectif. Ils ont permis, entre autres, je le disais à l'instant, la tenue de webinaires, de formations, le partage de bonnes pratiques et de documentation essentielle à nos métiers et une veille professionnelle. Les GT sont le cœur du réseau. Certains ont vocation à être permanents pour permettre le fonctionnement du réseau, d'autres se mettent en place sur un certain nombre d'années pour accompagner des évolutions professionnelles, et d'autres encore peuvent se former de façon plus ponctuelle pour répondre à un besoin précis. Nul n'est besoin d'être expert pour proposer de monter un GT, et le temps investi sera le temps que l'on peut y investir. C'est un défi majeur que de prendre en main ce réseau et de se montrer à la hauteur des missions et des engagements qui ont été mis en œuvre depuis maintenant 15 ans, mais c'est un réel plaisir de le faire avec un collectif engagé et impliqué. Cette année, nous avons souhaité mettre à l'honneur deux thématiques importantes et qui résonnent par leur actualité. Nos interlocuteurs nous l'ont rappelé. L'accessibilité numérique, d'une part, puisque le 7 mars 2023, l'État français a promulgué une loi transposant plusieurs directives européennes, et parmi celles-ci notamment l'article 16, qui est chargé de transposer la directive européenne relative à l'accessibilité des biens et des services. Il s'agit de rendre des produits et des services accessibles, comme les sites ou comme le livre numérique, mais également de fournir les informations nécessaires au fonctionnement de ces services et ces produits. Il s'agit d'un enjeu de taille, puisque cette mise en œuvre n'implique pas seulement nos métiers et les aspects techniques à maîtriser, mais surtout et aussi l'implication plus globale des institutions et des tutelles. La seconde thématique concerne l'intelligence artificielle. La journée de vendredi sera consacrée. Si l'arrivée de puissants algorithmes et du learning machine, des différents noms qu'on peut lui attribuer, affecte déjà, on l'a vu aussi, on l'a déjà dit, la production scientifique et interroge de nouveaux modèles de publication, depuis l'écriture jusqu'à l'évaluation de la recherche, d'importantes transformations se profilent et s'imposent aussi déjà dans la chaîne du livre. Entre ces deux journées de table ronde, se tiendra la journée destinée à la formation. Cette année, nous proposons 10 ateliers que nous avons sélectionnés en fonction des demandes qui sont remontées de l'enquête menée par le GT Formation, mais aussi en fonction des thématiques de cette année. Donc, nous espérons que chacun et chacune y trouvera satisfaction, et donc les ateliers se dérouleront à Villeurbanne, à l'ENSIB. Pour terminer, je remercie très chaleureusement l'ensemble des intervenants des tables rondes et des ateliers qui prennent tous les ans le temps pour préparer et animer ces séances et nous offrent un espace très riche d'échanges, d'analyses et de questionnements. Je voudrais maintenant également remercier d'une part les institutions et services qui nous ont soutenus financièrement, puisqu'une aventure comme celle-ci représente environ une dépense de 40 000 euros et ne saurait être organisée sans ce solide appui. Un grand merci donc à la mission pour les initiatives transverses et interdisciplinaires du CNRS, la MITI, le département de la diffusion des connaissances et documentation du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, la direction des données de la recherche du CNRS, la DEDOR, la direction pour la science ouverte INRAE, la DIPSO, l'université Lyon 2 et les presses universitaires de Lyon, les PUL, le pôle éditorial Lyon-Saint-Étienne Prairial, l'Institut national de recherche archéologique préventive, INRAP, l'ENS de Lyon et ENS Éditions, l'INRIA, l'ENSIB, le service MOB édition de la Maison de l'Orient et de la Méditerranée Jean Pouillou, le HESS et l'UMR Héritage. Et enfin, un remerciement pour le CCSD et la délégation Rhône-Alpes-Auvergne pour une grande partie de la gestion administrative et financière. La tenue des journées repose pour beaucoup sur les subventions de nos tutelles, c'est précieux, mais également sur la bonne volonté des établissements qui nous accueillent et des établissements des membres du comité d'organisation. Donc c'est l'occasion d'une excellente transition pour m'adresser à ce comité, celui de l'organisation. Il est remercié avec beaucoup de gratitude, celles et ceux sans qui ces journées n'auraient pas été possibles. Le comité s'est réuni tous les 15 jours depuis janvier pour définir le programme des tables rondes et des ateliers, contacter les intervenants, suivre les missions, suivre l'organisation des tables rondes avec les présidentes et présidents de séance, définir les budgets et faire les demandes nécessaires, réaliser des devis pour l'ensemble des prises en charge, faire le lien avec les établissements pour mettre en place les meilleures conditions d'accueil possibles, gérer la rediffusion des journées, et bien sûr, pour une petite danse incantatoire, afin que le soleil revienne après une longue période de pluie. Donc on est ravis d'accueillir les journées sous le soleil lyonnais. Pour leur grande disponibilité, leur réactivité, le temps de travail investi dans un environnement chaleureux et toujours motivé, merci à Céline Bartona du CCSD, Cédric Vigneault de l'ENSIB, Isabelle Boutou, Valérie Mansart et Sandrine Padilla de l'ENS Édition, Catherine Chauveau de l'INRAP, Ingrid Bertelier et Salomé Durand, Édition de la MOM, Isabelle Dorlan et Nathalie Petitjean des presses universitaires de Lyon, Basile Bayou et Marie Piquet pour le pôle éditorial Lyon-Saint-Étienne-Prairial, Livia Foraison pour le HESS et Emmanuel Perrin pour INRIA.